depuis 60 ans, depuis la déclaration de Robert Schuman, donc au mois de mai 1950, l'Europe a toujours fait les gros titres sous le mot crise. Ça fait plus de 40 ans que je m'intéresse à ces questions et je me souviens des grandes crises. Alors, il y avait d'abord, moi j'étais encore enfant, la crise pour la communauté européenne de défense lorsque les Français ont refusé de voter cette communauté européenne en 1954. Et puis après, il y a eu la politique de la chaise vide. Je me souviens des marathons à Bruxelles pour la politique agricole. On arrêtait la pendule parce qu'on n'arrivait jamais à se mettre d'accord. Ensuite, il y a eu les grandes crises qui étaient provoquées par Mme Thatcher lorsqu'elle demandait le retour de ses contributions. Il y a toujours eu ces grandes crises et puis il y a eu les difficultés autour du référendum, le traité de Lisbonne, etc. Donc j'ai l'impression que l'Europe vit toujours à l'heure de la crise et en même temps, quand on se retourne sur quelques années, on voit qu'elle progresse, ne serait-ce que parce qu'il y a des pays qui ont demandé librement à adhérer. Donc s'ils ont été volontaires, c'est qu'ils y voyaient un intérêt.
Mais justement, comme vous le soulignez, alors qu'on pensait le sentiment européen extrêmement bien ancré, en tout cas dans les pays fondateurs, on se souvient de la difficulté qu'on a eue même en France à faire passer le traité de Lisbonne, qui a été dans un premier temps rejeté par le référendum. Est-ce que tout de même le sentiment européen ne s'est pas un peu émoussé depuis justement ces actes fondateurs dont vous avez parlé ?
Oui. Le sentiment, mais est-ce que le sentiment suffit pour juger d'une réalité ? Parce qu'on peut avoir des humeurs, on peut avoir des sentiments comme ça, mais est-ce qu'on est prêt à revenir à la situation d'avant ? C'est-à-dire des nationalismes qui sont prêts à se dresser les uns contre les autres, je crois qu'on serait tous effrayés. Donc je crois que pour juger de ce que nous apporte l'Union européenne, il faut réfléchir à cette question de la paix. Imaginons ce que serait l'Union européenne si nous étions en train de préparer la guerre avec nos voisins sur le bord du Rhin. Ça paraît complètement impensable aujourd'hui pour les jeunes générations. Il faut aller jusque-là pour apprécier ce que la déclaration de Robert Schuman nous a apporté.
Mais justement, est-ce qu'il ne manquerait pas en tout cas des personnalités aussi fortes que Robert Schuman, à la fois visionnaires et charismatiques ?
Oui, mais attendez, n'oubliez pas que Robert Schuman nous apparaît charismatique et prophétique aujourd'hui, alors qu'à l'époque, il était très discuté. La preuve, c'est qu'il était mis en minorité au Parlement français en 1954. 4 ans après sa déclaration. C'est sur le fil du temps que les choses se décantent et apparaissent. Non, je crois que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans des questions de la vie ordinaire. Et les grandes personnalités émergent quand il y a des moments tout à fait décisifs, tout à fait exceptionnels. Donc ne nous plaignons pas d'être dans la vie ordinaire, parce que ça veut dire que nous n'affrontons pas de crise majeure. Sinon, les crises économiques.
Quels pourraient être les remèdes, justement, pour sortir de cette nouvelle crise qu'on a évoquée ? Quels pourraient être les remèdes, en fait, à la morosité actuelle ?
Je crois que la morosité, elle vient du fait, pour nous, les citoyens, de peut-être nous ne nous engageons pas, nous ne travaillons pas suffisamment, nous n'avons peut-être pas assez de curiosité pour nous intéresser à ce qui fait la vie de nos voisins. Qui va lire, par exemple, des journaux dans d'autres langues pour savoir ce qui se passe à l'autre bout du continent européen ? Encore une fois, c'est cette curiosité qui est l'antidote à la morosité.